opposition n'est pas limitée comme elle était l'an dernier au quartier dit Tutsi de la capitale. Elle est répandue dans d'autres quartiers de la ville, dans d'autres régions du pays et aussi dans ce qu'on appelle en Afrique dans d'autres classes d'âge. Même les jeunes n'aiment plus le président. Il y a une sorte de désaffection très large à son égard qui s'exprime même parmi les jeunes qui gribouillent son visage, qui le basculent dans le caïta. C'est une espèce d'opposition silencieuse mais qui montre bien l'ampleur du rejet.
C'était pas le cas avant. Avant les jeunes ne s'étaient pas impliqués dans cette contestation au Burundi.
C'est-à-dire que les jeunes qui s'étaient impliqués, c'était les jeunes surtout urbains de la capitale Bujumbura et de certains quartiers. L'an dernier, lorsque j'y étais, c'était 5 quartiers de Bujumbura et pas plus qui manifestaient. Après, il y a eu une forte répression, on ne manifeste plus, mais le désaveu, si vous voulez, s'est élargi à d'autres zones géographiques et d'autres classes d'âge, d'autres groupes de population, aussi parce que la situation économique s'est dégradée, parce que la violence s'est généralisée. C'est pas une violence massive comme l'an dernier lors des émeutes, mais moi j'appelle ça presque un génocide au compte-gouttes. On tue des gens tous les jours, on trouve des cadavres, des gens qui disparaissent, et donc au total ça fait beaucoup de monde et ça crée un sentiment de peur généralisée.
Justement, comment fonctionne le système de répression?
Mais les quartiers sont quadrillés. Ils sont quadrillés par des groupes de jeunes. Imbonera Kouré, au départ, c'était de jeunes sportifs, mouvement de jeunesse, si vous voulez, mais qui sont devenus des groupes paramilitaires, un peu sur le modèle de ce qu'étaient les tristement célèbres Interahamwe au Rwanda en 1994. Et ces groupes sont présents. Ils sont à côté de la police. Ils intimident la population. Et donc, il faut régner une sorte de peur latente et puis aussi commettre des exactions. Ça qui est extrêmement dangereux parce que les observateurs se disent que bon, ou bien le président se maintient au pouvoir et maintient cette situation de terreur, ce qui est tout de même très, très mauvais, mais aussi s'il venait à disparaître parce que la rébellion prenait le pouvoir ou le faisait disparaître, ce serait extrêmement dangereux aussi parce que là tout le monde se rappelle l'exemple du Rwanda où la mort du président Habyarimana a été le signal déclencheur du génocide commis justement par ces milices qui se trouvaient partout dans la population et qui la contrôlaient.
Alors on parle en ce moment d'une possibilité que le président burundais devienne le roi du pays. Pourquoi la souveraineté est une question importante au Burundi ?
Mais ça c'est plus à mon avis un article de propagande, c'est-à-dire que le roi du c'était le Mwami, mais dans la tradition burundaise d'avant la colonisation et puis même du temps des Belges, le Mwami était le roi qui était supérieur aux ethnies. Il n'était ni Hutu ni Tutsi, il appartenait à un groupe différent et il était respecté de façon égale par tout le monde. Mais pour cela, il avait sa naissance, sa noblesse d'origine, mais aussi sa noblesse de comportement. Il était respecté, il était reconnu. Je pense que le président actuel du Burundi n'a ni ses origines prestigieuses, ni le comportement au-dessus de tout soupçon et impartial qu'il ferait respecter par tout le monde. On en est malheureusement très loin.
Alors, la principale plateforme qui regroupe l'opposition, le CNARED, a rencontré à Bruxelles la médiation tanzanienne. Que peut-on attendre de ces discussions alors que le gouvernement burundais a toujours refusé de discuter justement avec le CNARED ?
Le carré qui compte quand même pas mal de personnalités politiques importantes qui ont eu de l'expérience dans les gouvernements précédents, essaye de se faire accepter pour discuter. Et je pense que le médiateur tanzanien voit bien qu'une sortie négociée doit se négocier avec toutes les parties en présence et que le CNARED est composé d'individus peut-être un peu divisés entre eux, mais qui sont quand même des gens d'expérience et qui représentent quelque chose. Donc il faut qu'ils soient inclus dans une discussion. Dans une négociation, de toute façon, c'est ou bien la voie négociée, ou bien une détérioration qui va se poursuivre et qui est extrêmement dangereuse.
Est-ce que, selon vous, une solution pourrait venir de la communauté internationale ?
Aussi longtemps que le Conseil de sécurité est divisé sur le Burundi, où certains pays occidentaux voudraient agir, exercer des pressions plus fortes, mais à ce stade, la Russie, la Chine ne sont pas clairs et s'opposent à des sanctions plus déterminées et au déploiement d'une force de paix. Et donc, si le Conseil de sécurité est divisé, ça veut dire que la communauté internationale est bloquée. Quant à l'Union africaine, il y a un médiateur, mais elle a voulu envoyer 5 000 policiers possibles d'ici quelques mois, Bujumbura s'y est opposé et l'Union africaine a battu en retraite. Donc ça reste compliqué.